Bleu Braise Isère. 100% Foot Braise.
Et c'est parti pour 100% Foot Braise pour la première de la semaine. Bonsoir Mélanie Duro.
Bonsoir Axel, bonsoir à tous.
Et oui, même le lundi de Pâques, jour férié ou pas, nos clubs bretons ont joué ce week-end, eux, et ça s'est pas très bien passé.
Ouais, effectivement, aucune victoire en Ligue 1 pour nos trois clubs, hein, le Stade Brestois, le FC Lorient et le Stade Rennais, c'est même trois défaites. On va d'abord revenir sur celle de Brest, c'était samedi à Saint-Étienne, une défaite 2-1, dont on va parler avec Florent Bibiloni, journaliste à Ouest France.
Et puis retour ensuite sur celle de Lorient, défaite là aussi 2-1.
Oui, c'était hier midi à Nice. On a cru au match nul, mais Andy Delors, l'attaquant des Aiglons, on a décidé autrement. Franck Ledors du journal L'Équipe va débriefer cette rencontre avec nous.
Le Stade Rennais, on l'évoquera demain, Mélanie, mais puisqu'on va consacrer surtout la seconde partie de cette émission à l'US Concarneau.
Oui, parce que l'Étonnier joue ce soir, hein, c'est à 20h45 au stade de Guy Piriou face à Laval, le leader de National. Cette fois, c'est officiel, hein, Concarneau doit gagner pour être sur le podium. La place de troisième a été perdue du ce week-end avec les différents résultats sur les autres pelouses. Jérémy Proulx de Ouest France nous rejoindra pour un grand avant-match dans 100% Foot Braise.
100% Foot Braise, c'est votre émission consacrée au football breton et on est ensemble jusqu'à 19h.
Parlons bien, parlons sport, 100% Foot Braise.
Et puis ce sera Manu Mehu qui vous accompagnera tout à l'heure à partir de 19h, 2h d'émission langue bretonne dans Brainstorming sur France Bleu Braise Isel. Un autre monde. Téléphone et n'oubliez pas, à tout moment, vous pouvez nous appeler pour vos inforoutes au 02 98 53 65 deux fois. Le retour du week-end, c'est compliqué, surtout dans le Morbihan. autre monde avec le groupe Téléphone sur France Bleu, Brésisel. Deux mondes, celui de la Ligue 1 et du National dans 100% Foot Brace. Ça commence dans quelques secondes.
La fin de journée sera comptée en breton avec France Bleu Brésisel. Quelle est hier? Quelle est nous? Cosé à des nous à Bepsort? Balé à des nous? En moi à Garonne? Évident à Vézou, Guello Rombro? Perroa, Sistorio, Évident à Révraz, Agaré Vunut? Des cadeaux, des surprises et le meilleur des musiques bretonnes et celtiques. Du Hervez Evidor, Eusa Lune d'Argoener. Brainstorming, c'est votre magazine en langue bretonne du lundi au vendredi de 19h à 21h avec France Bleu Brésisel.
Circuit bleu, côté expert. Sur France Bleu Brésisel.
Comment acheter éco-responsable, s'habiller en tous les cas en ces temps de pouvoir d'achat difficile? Comment éviter les achats compulsifs tout en restant in, comme l'on dit? Eh bien, on fait le point ce mardi avec Valérie Guénec, spécialiste du relooking. Elle nous donnera des clés pour être bien sapé, sans trop dépenser, et ce, à 9h30.
100% Foot Braise sur France Bleu Brésisel.
Allez, on débute ce magazine avec le Stade Brestois, Mélanie, et c'est une défaite sur la pelouse de Saint-Étienne samedi après-midi.
Oui, une défaite de 2-1. Ça avait pourtant bien commencé pour Brest. On revient sur ce match avec Florent Bibiloni, journaliste à Ouest France. Bonsoir Florent.
Bonsoir à tous, bonsoir Mélanie.
Alors, on avait fait l'avant-match ensemble, Florent, la semaine dernière. On avait parlé des absences côté stéphanois, de la supériorité aussi hein, sur le papier de Brest. Mais on avait aussi dit qu'il fallait se méfier d'une bête blessée. Bon, ça n'a pas loupé et c'est quand même frustrant parce que Saint-Étienne n'a pas été transcendant non plus samedi.
Non, effectivement, ouais, on parlait de la supériorité. Il y en a bien eu une hein, de Brest qui a, notamment dans le premier quart d'heure, qui a déboulé sur un but de Honora. Et j'ai rarement vu Brest commencer un match à l'extérieur d'une telle manière, avec une telle domination. En fait, on voyait Saint-Étienne qui était complètement timoré, qui était complètement au fond du trou, qui ratait beaucoup de passes. Techniquement, c'était laborieux. Et puis ils se sont mis un peu dans le jus tout seuls, hein, les Brestois, avec deux grosses erreurs et derrière ils ont pas su revenir, quoi. Ouais.
Ouais, parce qu'il y a eu deux corners en fait, hein, qui ont suffi pour ces deux buts stéphanois en première période à la 14e et 39e. C'est la défense de Brest qui est mauvaise sur ce coup ou c'est aussi la qualité stéphanoise qui fait la différence? Ils en ont parlé, hein, qu'ils avaient travaillé justement ces corners, ça, ouais. Enfin, ces coups de pied arrêtés.
Ouais, franchement, je pense que c'est un peu des deux. Parce que Saint-Etienne, j'ai vu ça ce matin, mais c'est l'équipe de Ligue 1 qui marque le plus de buts sur. Sur coup de pied arrêté, 46% de leurs buts ont été mis sur coup de pied arrêté, donc c'est quasiment la moitié, c'est énorme.
Ouais.
Et c'est vrai que Pascal Duprat a dit oui, j'ai décelé la faille dans le jeu du Stade Brestois, mais bon, je pense que c'est plus de la com qu'autre chose, parce que Brest, et j'ai aussi regardé les chiffres un peu, et Brest, c'est la sixième équipe qui prend le moins de buts sur coup de pied arrêté de Ligue 1. Mmh. Donc bon, je pense que voilà, il a mis deux buts sur coup de pied arrêté, il voulait trouver une raison de pouvoir mettre un brin au Brestois, mais en fait Brest a mal défendu, ok, mais Saint-Étienne a très bien joué le coup aussi, hein. Brendan Chardonnay l'avait dit, ils les ont bien bossés, ils faisaient des blocs en fait dans la surface,
ouais.
pour se retrouver tout seul, quoi, et ça a fonctionné, ouais.
Ouais, c'est ce qu'on voyait hein, sur les images. En fait, à chaque fois, il y avait un Stéphanois qui pouvait empêcher le défenseur brestois en fait de suivre l'attaquant qu'il avait au marquage, quoi.
Ouais, c'était limite à chaque fois, mais bon.
Oui, parce que ça peut être une faute aussi. Je dis, ça peut être une faute aussi, finalement, de faire un bloc comme ça. Ça peut être considéré comme une obstruction par l'arbitre.
Ouais, mais bon, ils ont réussi à pas se faire reprendre par la patrouille. Et puis derrière, quoi, ils ont pas d'occas. C'est ça qui est assez dingue, quoi. On doit attendre le dernier quart d'heure pour avoir des occasions. Une frappe de Nordin, une autre de Boutbouze, et puis, c'est tout. Rien d'autre. C'est d'autant plus amer, quoi. La défaite est un peu amère, je trouve.
Florent Bibiloni, vous êtes journaliste à Ouest France, notre invité, hein, pour parler de cette défaite brestoise sur France Bleu, Brésisel, Mélanie.
Oui, parce que c'est vrai qu'à la pause, ça fait 2-1 pour Saint-Etienne, mais il reste quand même du temps pour revenir. Il reste une seconde période. Et finalement, Brest a raté le coche aussi.
Ouais, c'est clair. Bah, offensivement, il n'y a pas eu. En fait, moi, depuis la tribune, on avait l'impression que, en fait, après avoir marqué le premier but, ils se sont dit bon, ok, on a fait le plus dur, là, on va les enfoncer complètement. Et puis derrière, il n'y a pas eu franchement de révolte. Par contre, les entrants ont fait une très bonne entrée. J'ai trouvé avec Cardona notamment qui a été très propre. Julien Poissurier aussi qui met d'ailleurs le dernier centre pour dans les derniers instants sur la tête d'Erel,
oui.
qui est enlevé par Bernardoni in extremis. Mais ouais, c'est vrai que mis à part cette situation, il n'y a pas eu grand-chose quoi côté brestois offensivement. Ouais.
C'est un peu décevant. Alors il reste encore quelques journées hein, pour terminer cette saison, mais s'il y avait un mot pour décrire ce qu'est la saison brestoise, c'est quand même sans doute l'irrégularité, parce que jamais une performance est la même que l'autre, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est clairement ça, c'est l'irrégularité, c'est le manque de cohérence d'un match à un autre. On se demande, ouais, comment ça peut être possible, mais après, moi, je sais pas. Franchement, cette équipe, elle peut être.
Elle est dure à analyser.
Parfois, Ouais, franchement, ouais.
C'est difficile à comprendre. En tout cas, il y a un prochain match qui arrive très vite. Hein. C'est mercredi soir à 21h contre l'Olympique Lyonnais. On verra ce que peut proposer Brest, hein, Lyon qui a une grosse victoire ce week-end contre Bordeaux. Merci beaucoup, Florent, d'avoir été avec nous.
Avec plaisir. Bonne soirée à vous.
À vous aussi, à bientôt.
Bonne soirée, Florent. Voilà, première étape de notre magazine 100% Foot Brest. Dans quelques minutes, c'est Franck Ledors du journal L'Équipe qui nous rejoint, Mélanie.
Oui, on va parler de la défaite lorientaise. On a vraiment cru que le nul allait être possible. Mais finalement, c'est une défaite 2-1 contre l'OGC Nice. C'était hier midi à 13h.
Et à suivre dans 4 minutes.
100% Foot Braise sur France Bleu Braise-Isel.
Ariana Grande et The Weeknd sur France Bleu Braise-Isel. Avant de faire un point sur l'inforoute, hein, très compliqué en ce lundi de Pâques, notamment dans le Morbihan. Avec Ariana Grande sur France Bleu Braise-Isel, 18h22. Avant de parler du FC Lorient avec Mélanie Duro dans 100% Foot Braise, un coup d'œil sur la circulation ce lundi de Pâques. Alors ça va un tout petit peu mieux hein, dans le Morbihan. À Auray, il y a malgré tout encore quelques 2 km de ralentissement direction de Vannes sur la Nationale 165. Si vous venez de Crac pour rejoindre Auray, c'est compliqué aussi. À l'approche de Vannes, entre Plérin et Vannes, situation en accordéon. Puis je vous rappelle quand même cet accident tout à l'heure à Gestel. Il y a toujours 2,5 km de ralentissement venant de Quimper, direction Lorient. Et puis, zone de travaux à l'approche de Josselin, les deux derniers kilomètres en venant de Lorient sur la N24, direction Rennes à Josselin, donc sont compliqués. Bonne route à vous, bon courage.
L'infotrafic 100% local avec Inforoute 29, service vous alertant des travaux, déviations, accidents sur les routes départementales finistériennes. Toutes les infos sur finistère.fr, rubrique Inforoute 29. France Bleu Brésil, 100% supporter du sport breton.
Le FC Lorient n'a pas réussi à ramener des points de Nice, Mélanie, mais on n'était pas loin.
Hein. Oui, on y a cru, hein, mais Andy Delors est venu marquer le but du 2-1 pour Nice. Il a même marqué un doublé. On fait un retour sur ce match avec Franck Ledors, journaliste au journal L'Équipe. Bonsoir Franck.
Bonsoir Mélanie, bonsoir à toutes et à tous.
Est-ce que sur ce match contre Nice, Lorient peut avoir des regrets ?
Naturellement, vu le scénario, vous êtes revenu un partout. Il se passe pas grand-chose dans ce match. Hein, il faut quand même reconnaître que c'était pas un match très palpitant. Hein, sauf erreur de ma part, 3 tirs cadrés, 3 buts. Le problème, c'est que c'est les Niçois qui ont cadré 2 fois et les Lorientais qu'une seule fois. Donc, à l'arrivée, il y a ce but qui est pris effectivement quelques minutes de la fin. Alors qu'on s'y attendait plus trop, même si évidemment dans ces derniers instants la domination était plutôt azuréenne, c'est logique. Hein, c'est une équipe de Nice qui ambitionne pourquoi pas la Ligue des Champions, tout au moins à minima une qualification pour l'Europe, qui recevait donc forcément c'était un mauvais résultat pour elle. Et puis ben voilà, ça une petite sans doute une erreur d'inattention, ça fait partie du jeu. Un bon centre et puis ben on sait Candide Delors de la tête dans une surface de réparation, ça fait
mal.
Voilà, ça fait mal, c'est souvent cadré et là, voilà, c'est arrivé au Merlu, c'est bien dommage. Voilà, donc il y a forcément des regrets parce que au-delà, oui, de ce scénario, c'est une équipe niçoise, oui, très décevante. Et donc Lorient avait certainement les moyens de faire mieux. On en avait parlé en avant-match. Il y avait un coup à faire. C'est pas passé loin, mais moi j'ai un petit peu aussi des regrets, même si le coach Pélissier n'avait pas grand-chose à reprocher à ses joueurs. Mais bon, moi j'ai une petite, bon, pour avoir vu ce match à la télé, hein, c'est toujours plus facile, mais une petite frustration parce que j'ai, voilà, eu l'impression au moins sur la première mi-temps que c'est une équipe un peu trop. Défensive, un peu trop prudente, bon, qui a eu sans doute eu peur de se livrer, et qui a pas joué, qui a pas assez joué, qui a commencé vraiment à jouer en seconde période. Et là, on a vu que il y avait des possibilités, même si c'était eu du mal à se concrétiser, comme je disais, un seul tir cadré, un but. Mais voilà, j'ai trouvé cette équipe, peut-être un, bon, après, la situation, voilà, était pas évidente non plus quand vous déplacez chez un gros et que vous êtes dans une situation compliquée au classement, voilà, vous pouvez pas partir comme ça, avec énormément d'ambition, mais, bon, j'ai un petit peu de regret, moi, sur la façon dont a joué Lorient. Je pense que, voilà, peut-être.
Qu'il y avait peut-être mieux à faire.
Peut-être mieux à faire avec des six. Maintenant, voilà, c'est comme ça. c'est zéro point, malheureusement. Il faut passer à autre chose, comme on dit.
Franck Ledors de L'Équipe, notre invité sur France Bleu, Brésil, Mélanie.
Oui, c'est vrai que c'est dommage parce que on voit Andy Delors qui voulait la marque sur pénalty. Et puis, Lorient monte quand même du caractère. Égalise 7 minutes plus tard par Lorienté, qui fait un super travail d'ailleurs avant son but. Ça montre quand même que cette équipe de Lorient, elle a des ressources aussi mentales.
Oui, ça, on n'en a jamais douté. Hein. C'est la grande force de cette équipe qui sait réagir. Alors, soit réagir dans des matchs, soit réagir dans des périodes plus compliquées. Ils l'ont montré la saison dernière où on pensait que c'était quasiment cuit à la trêve avec 12 points. Et puis petit à petit, ça a grignoté, c'est remonté, puis ça s'est maintenu. Cette année, c'est un scénario un peu différent sur la saison. Mais bon, l'équipe de Lorient qui est encore en grande difficulté cet hiver et qui s'accroche et qui est capable. Ça, on le sait, il y a des capacités. C'est aussi parfois pour ça qu'on est un peu frustré, un peu déçu, parce qu'on se dit voilà, cette équipe a des capacités, a les moyens parfois de faire mieux, de mieux jouer, de croire peut-être davantage en elle, de se libérer davantage. Alors c'est souvent un peu dans les têtes quand vous êtes dans des positions comme ça compliquées, c'est difficile de se lâcher spontanément. Mais quand ils le font, surtout qu'ils ont des arguments offensifs, hein, même si on a pendant très longtemps un petit peu insisté sur le fait que c'était la plus mauvaise attaque. Il y a quand même des joueurs de qualité, et notamment ce Ibrahim Makoné qui était remplaçant, mais qui devrait, on l'espère, on pense, être titulaire là contre Metz.
Mercredi.
Oui, donc là il était un peu incertain, mais Ibrahim Akoné, Terem Moffi, Armand Lorienté, notamment, voilà, c'est des joueurs, voilà, qui sont, il y a peu d'équipes du bas de tableau qui ont potentiellement une telle force offensive. Donc parfois on aimerait que ça se projette un peu plus, que ça se libère un peu plus, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué quand vous êtes dans cette situation là. Mais bon, c'est une équipe pour moi qui réagit bien, même si parfois on préférait qu'elle agisse, et c'est ce qu'on attendra évidemment d'elle en premier lieu contre Metz, où là, dans ce match de bas de tableau, j'ai envie de dire que là, pour une fois, Lorient se fera figure de favori, donc devra assumer ce statut et j'ai envie de dire presque mettre définitivement Metz hors d'atteinte. Ça en ferait déjà une, voilà.
Une de moins.
Tiens, exactement.
La réception de Metz, c'est mercredi soir à 19h. Donc, au Mostar, on espère que ça se passera bien pour les Merlus, qu'ils vont prendre les 3 points, bien sûr. Merci beaucoup, Franck, d'avoir été avec nous.
Ben, merci à vous. Bonne fin de soirée.
Bonne soirée.
Franck Ledors de l'équipe. Allez, on passe au National maintenant pour la deuxième partie de cette émission jusqu'à 19h. Mélanie, avec un grand avant-match. Hein.
Oui, parce que la rencontre du soir est extrêmement importante hein, dans la lutte pour monter en Ligue 2. Concarneau reçoit le Stade Lavallois. Alors, le Stade Lavallois, normalement, devrait aller en Ligue 2. Pour Concarneau, c'est plus difficile qu'il vienne perdre sa place hein, ce week-end du podium. On va en parler avec Jérémy Prou, journaliste à Ouest France.
Parlons bien, parlons sport, 100% foot braise.
Du lundi au vendredi, après le journal de midi jusqu'à 12h30, on est complètement à l'ouest avec le billet de Willy Rovelli, l'humoriste qui tire plus vite que son ombre, l'interview complètement à l'ouest sur tout ce qui bouge en Bretagne, le faux billet qui appuie sur la détente, et encore l'histoire d'un tube par Nicolas Lespaul dans France Bleu Collector. L'avantage d'être complètement à l'ouest, c'est de jamais perdre le nord.
France Bleu Crac pour Terre Noire. Terre Noire, l'infini en ce moment dans votre playlist 100% France Bleu. France Bleu.
Qui peut concurrencer MAF Pro ?
Moi qui crée mon entreprise, je préfère MAF Pro.
MAF Pro, c'est 70 ans d'expérience au service des clients pro.
Ça donne confiance.
Je préfère la MAF.
Information au 3015, service et appel gratuit et sur maf.fr.
Quand c'est signé France Bleu Brézizel, c'est vous qui en parlez le mieux.
Bonne journée, portez-vous bien et continuez comme ça, vous donnez du soleil dans nos cœurs.
Du soleil, il y en aura un petit peu demain, mais pensez à la petite laine. Hein. Chute des températures avec 12 à 15 degrés demain, mardi. Le ciel sera nuageux dans le Finistère, plus ensoleillé ailleurs. Et des petites pluies faibles, des averses hein, éparses pourront vous arroser. Dans le Finistère, l'Argoat également, le pays de Pontivy. La nuit, entre-temps, sera plutôt claire avec un vent faible et 3 à 7 degrés. Voilà pour la nuit qui arrive. Puis ensuite, on aura de belles éclaircies encore mercredi et jeudi. Mais un risque d'orage pour vendredi, samedi, dimanche, nous dit Météo France. Sam Fender sur France Bleu, Brézizel, 17 going under. Avant de parler de Concarneau dans la demi-heure qui suit dans 100% Foot Braise sur France Bleu, Brézizel.
I remember the sickness was forever. I remember snow videos. Cold September's, the distances we covered. The fistfights on the beach. The busies round us up. Do it all again next week. An embryonic love. The first time that it's scarred. Embarrass yourself for someone. Crying like a child. And the boy you kicked Tom's head in still bugs me now. That's the thing, it lingers and curses you when you die. I was far too scared to hit.
Bel accent de Newcastle, le britannique Sam Fender sur France Bleu, Brésil, 18h35.
100% foot Braise, 100% sur France Bleu Brésil.
Allez, deuxième partie de notre émission 100% foot Braise consacrée au championnat national et à la rencontre du soir, Mélanie, ce sera Concarneau qui reçoit le Stade Lavallois.
Oui, c'est le choc de cette 33e journée de National. C'est peut-être même le choc de la saison pour les Tauniers. Jérémy Proulx du journal Ouest France est avec nous ce soir pour ce grand avant-match. Bonsoir Jérémy.
Oui, bonsoir Mélanie.
Alors, c'est la dernière fois de la saison que Concarneau joue le lundi soir. Et c'est peut-être la première fois que Concarneau a autant de pression puisque ce week-end, les Tauniers sont tombés du podium.
C'est ça, voilà, pour la première fois depuis très très longtemps. Peut-être un signe, en tout cas le signe qu'il faut gagner ce soir, qu'il faut prendre des points face aux leaders. L'équation va être très très compliquée, mais vous l'avez dit, voilà, c'est peut-être la première fois de la saison que les Tauniers ont autant un impératif de résultats sur une dynamique qui est franchement pas excellente. Le contenu aussi s'est un peu érodé ces dernières semaines, notamment défensivement. Donc il y a pas mal de petites inconnues, de choses à régler. C'est pas le meilleur contexte pour affronter une équipe qui est très très en forme. Mais néanmoins, voilà, il faudra compter sur le soutien de Kipiriou, qui sera quasiment à guichet fermé ce soir. Donc ça sera un élément important. Néanmoins, ouais. Tout à fait.
Et donc Concarneau a perdu sa place parce que Villefranche a battu Le Mans ce week-end. Donc Villefranche est passé troisième. Mais au-delà de cette troisième place récupérée, il y a aussi Annecy qui a battu Créteil. Annecy est toujours donc deuxième, mais avec 6 points de plus que Concarneau, ça commence aussi à se creuser pour les deux premiers au classement.
Tout à fait, je pense même que Stéphane Lemignan a plus ou moins tiré un trait sur cette deuxième place. Il le dit pas de manière officielle et très très claire, mais on sent que s'il y a un objectif demeurant pour les Tauniers, c'est cette place de barragiste désormais. Puisque le calendrier de la fin de saison sera pas évident non plus. Je pense qu'il faut aussi raison garder par rapport à une forme de logique sportive en ce moment qui concerne Laval et Annecy, qui sont des équipes bien mieux armées sur le papier que Concarneau et qui sont en pleine bourre, tout simplement. Donc là, s'il y a encore un objectif pérenne et surtout logique et légitime pour les Tauniers, c'est effectivement cette troisième place. Et encore une fois, ça passe par un très bon résultat ce soir. Et j'ai envie de dire que c'est presque la bascule de la saison. Parce que psychologiquement, quand on n'est pas à même de tenir une équipe qui est censée jouer dans les mêmes eaux que Concarneau, en tout cas pas forcément à la base, mais ça l'est devenu du fait du championnat, ça voudrait dire quelque chose. Donc forcément, ce soir, ce match est important à bien des égards.
Jérémy Proulx de Ouest France, notre invité sur France Bleu Brésil dans cette demi-heure pour évoquer le choc Concarneau Stade Lavallois ce soir, Mélanie.
Oui, on parle de ces places au classement, de cette troisième place, mais on n'oublie pas non plus Châteauroux qui est à égalité de points. Bourg-Péronas a seulement un point. Si Concarneau ne gagne pas ce soir contre Laval, est-ce qu'on peut dire définitivement adieu à la montée en Ligue 2 ? Qu'elle passe par cette troisième place ou non ?
Franchement, non, je ne pense pas, puisque alors à la fois mathématiquement, surtout mathématiquement, tout resterait à faire. Et puis Concarneau va vite rejouer dans la semaine et dès vendredi à Saint-Brieuc, donc c'est un contexte qui est toujours favorable si par hasard il y avait un résultat qui était négatif ce soir. Donc non, je pense que mathématiquement rien ne serait joué. Après, encore une fois, sur un sprint final, ce qui compte c'est aussi la dimension psychologique. Et on sent bien qu'en ce moment, ce facteur-là n'est pas en faveur de l'US Concarneau. Ça l'a été pendant tout l'hiver. Là, on sent ce collectif qui est en train de piocher. On sent certains cadres aussi qui sont en train de piocher physiquement. Je pense notamment à Donatien Gomis qui a été impeccable toute la saison et qui sur le dernier match a été plus que permissif défensivement en charnière centrale. Donc c'est des signes qui ne doivent pas tromper. S'il y a un élément, un levier sur lequel doit s'appuyer Concarneau, c'est la ferveur locale, on doit dire, et puis cette perspective qui n'était pas écrite à la base d'éventuellement jouer une montée. On sait que ce club n'est pas destiné à ça à la base. Il faut vraiment jouer le coup à fond, se lâcher. Cette équipe a aussi besoin de se lâcher, je trouve, collectivement, de prendre des risques aussi parfois. C'est un jeu qui est très très léché, très très solide, très cohérent, mais c'est vrai que parfois ça manque peut-être un petit peu de folie ou de prise d'initiative. Donc c'est peut-être là-dessus aussi qu'il faudra appuyer dès ce soir et puis sur l'ensemble des matchs de la fin de saison.
Mais est-ce qu'ils sont capables justement de se lâcher, puisque là, s'ils ne gagnent pas ce soir, ça fera deux mois sans victoire et on a l'impression que plus il y a de pression, moins ils arrivent finalement à la gérer. Et On aimerait les voir jouer plus libérés, mais est-ce que mentalement, ils en sont capables, tout simplement?
C'est vrai que c'est assez paradoxal, finalement, puisque plus cette équipe est amenée à jouer les premiers rôles, alors qu'elle n'était pas destinée à la base à jouer ses premiers rôles, et plus effectivement, on sent une forme de pression qui s'installe et qui a tendance à inhiber tout ce collectif. Alors après, est-ce qu'ils en ont les moyens de se libérer de tout ça? Oui, je pense, ça passe par un discours fort aussi de Stéphane Le Mignan dans le vestiaire, qui peut-être lui aussi devra appuyer sur d'autres choses. On sait que c'est un coach qui fait rameuter ses troupes, mais qui est un coach assez pragmatique, assez pédagogique, je dirais. Peut-être qu'il faudra pas hausser le ton, c'est pas le mot, mais faire appel à d'autres valeurs, des valeurs qui sont un peu plus apparentées à l'orgueil, par exemple, à ce genre de choses. Voilà, vraiment activer des choses qu'on n'a pas vues depuis le début de saison, qui permettent à cette équipe de partir au combat, parce qu'on sent bien que voilà, sur les duels, sur l'aspect physique, il y a vraiment un cran en dessous, hein, par rapport à ce qu'on a vu cet hiver, sans que dans le collectif, le coach Concarneau arrive à trouver la solution. Il y a toujours un buteur qui est toujours bien présent, même s'il a beaucoup moins de soutien. Fedel Koumisti a beaucoup moins de soutien depuis la blessure d'Antoine Rabillard.
Oui.
Et puis aussi de la part de l'entrejeu qui est moins productif. Donc voilà, si quelque part, il faut presque oublier la forme et préférer le fond, c'est-à-dire peut-être moins bien joué. On sait que cette équipe adore le beau jeu. Maintenant, il faut préférer l'essentiel, c'est-à-dire aller chercher des points et vraiment partir au combat.
Vous restez avec nous, hein, Jérémy. On continue à parler de ce match ensemble dans un instant.
Concarneau, Stade Lavallois, c'est donc ce soir à 20h45.
100% Foot Braise sur France Bleu Braise-Isel. Circuit bleu, côté jeu, cap ou pas cap. Jouez chaque jour de 11h à midi. Cap, vert ou cap, et l'épée, cap, huche, Finistère, orne, cap ou pas cap. C'est votre jeu du lundi au vendredi de 11h à midi sur France Bleu Braise-Isel. Vous êtes cap de répondre à 3 questions. Le cadeau du jour est peut-être pour vous. Cap ou pas cap, on joue ensemble sur France Bleu Braise-Isel.
Deux heures avant le choc Concarneau-Laval, on en parle sur France Bleu Braise-Isel dans 100% Foot Braise dans quelques instants après Gérald de Palmas.
Avoir juste envie, rester
Une seule vie, Gérald de Palma sur France Bleu Breizh-Izel.
France Bleu Breizh-Izel, 100% supporter du sport breton.
On continue, Mélanie Duro, à parler du match du soir dans 100% Foot Breizh. C'est l'US Concarneau qui reçoit Laval.
Oui, c'est ce soir à 20h45 au stade Guy Piriou. On a évoqué avec Jérémy Proux, journaliste à Ouest France, les enjeux de ce match. On va maintenant s'intéresser à chacune des deux équipes. Jérémy, est-ce que Stéphane Lemignon peut déjà compter sur un groupe au complet ce soir?
Oui, tout à fait. Il a même convoqué un groupe de 17 joueurs, donc ça va lui offrir la possibilité de faire un choix. Il y aura guère de surprise, hein. De toute façon, ce groupe est toujours plus ou moins le même. Mais un garçon comme Georges Gopé-Fenépège va faire son retour offensivement. Mm-hmm. Je suis pas persuadé qu'il démarre la rencontre. On va s'attendre, plus on va approcher du dénouement, plus le 11 de Stéphane Lemignon va peu évoluer. Donc il y aura pas énormément de surprises, mais oui, c'est un groupe au complet et c'est toujours important.
Est-ce qu'on peut voir la même équipe que face à Sedan avec Ludovic Ball en latéral gauche, Maxime Etuin plutôt au milieu de terrain, puis Faisal Manaï titulaire?
A priori, c'est l'une des solutions, des options vers lesquelles tendrait Stéphane Lemignon. Il l'a plus ou moins confié en conférence de presse. C'est pas forcément son habitude de faire des confidences sur son 11 de départ. Est-ce qu'il essaye de brouiller un petit peu les pistes? Ou alors, je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de surprises sur ce 11 de départ, encore une fois. Donc, je suis pas persuadé que ça soit un effet de bluff. Après, est-ce que c'est vraiment la clé du match? Pas franchement. Ça va jouer sur la capacité des deux équipes à prendre le dessus sur le jeu. Et c'est plus vraiment une question d'individualité, mais de lien collectif. Donc je suis pas persuadé qu'il joue au poker, Stéphane Lemignon, avant la rencontre. C'est pas franchement son habitude et ça devrait pas être encore le cas ce soir.
Est-ce que du côté de Laval, vous savez s'il y a des absents pour ce soir?
A priori non, pas d'absents, en tout cas pas d'absents de marque. Ça sera une équipe qui sera sensiblement la même là aussi a priori par rapport aux journées précédentes. Une équipe qui va très très bien, notamment offensivement, qui est extrêmement efficace, qui devrait faire le job, et puis qui est très lancée. Franchement, c'est quand on regarde bien cette équipe de Laval, comme on a pu la voir cet hiver où Concarneau était allé s'imposer, et puis quand on la voit désormais, ça n'a plus grand chose à voir, hein. C'est très bien huilé. Il n'y a plus cette forme de doute qu'il pouvait y avoir collectivement pendant l'hiver. Ça s'est complètement libéré à la faveur de cette série de victoires que les Tangos ont pu enclencher à l'entame de l'automne. Donc c'est vraiment un gros morceau et je vois mal comment cette équipe ne pourrait pas monter en Ligue 2 en fin de saison.
Alors, malgré tout, Laval avait été stoppé par le Stade Briochin il y a 10 jours après avoir mené 2-0. Au final, ça a fait 2-2. Il y avait eu deux buts de Saint-Brieuc dans les 10 dernières minutes. Ils se sont fait reprendre un petit peu comme Concarneau à Sedan. Ça montre malgré tout que cette équipe de Laval n'est pas infaillible non plus. Il y a quand même de l'espoir pour ce soir.
Oui, tout à fait. Il y a de l'espoir. Hein, si Concarneau s'est imposé à l'aller en étant d'ailleurs assez efficace sur les coups de pied arrêtés. C'était un but de Tristan Boubaya sur corner, ça montre qu'il y a des failles, hein. Ça c'est évident. Après, ce qui me rassure un peu moins, c'est que cette équipe de Laval sait capitaliser sur ces petits échecs, ces demi-échecs qu'elle a pu subir. Ce 2-2 à Saint-Brieuc a certainement piqué ce groupe qui sait parfaitement jouer là-dessus. En tout cas, Olivier Frappoli est un coach qui mise beaucoup sur ce facteur de réaction. Il l'a montré dans notre club également, c'est l'un de ses points forts. Donc ça reste quand même un très gros morceau, et allez, pour le dire franchement, compte tenu de la dynamique Concarneau actuellement, sur le papier en tout cas, je vois pas Concarneau s'imposer, ou en tout cas si cette équipe s'impose, c'est qu'elle aura trouvé un levier pour faire basculer cette équipe lavalloise, et ça joue aussi beaucoup là-dessus, hein, sur la capacité des coachs à trouver le bon filon, à trouver la faille pour faire renverser l'adversaire à cette époque de la saison. Donc c'est aussi une bataille de coach, hein, ce soir.
Et c'est dans moins de deux heures, hein, l'US Concarneau qui reçoit le stade Lavallois. On en parle avec vous, Jérémy Proux, de Ouest France, sur France Bleu Breizh-Izel. Mélanie.
Alors du côté de Laval, on connaît surtout Geoffrey Durban, hein, pour tous ses buts. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui sont vraiment à surveiller dans cette équipe, hormis leur buteur?
Alors franchement, ça va être un langage un peu de langue de bois, mais c'est vraiment costaud à toutes les lignes.
À tous les étages,
vraiment, toutes les lignes sont costauds. Enfin, si ça fait plusieurs années que ce club est en national, se cherche un deuxième souffle, hein, y compris chez les jeunes, où ça continue de bosser d'ailleurs très très sérieusement. Mais là, cette saison, on l'avait dit en début de saison, et ça a eu du mal à prendre en tout début de saison. On a même été assez inquiet hein, par rapport au devenir de cette équipe lavalloise. C'est une équipe qui est taillée largement pour la Ligue 2. Il faudra la renforcer si bien sûr il y a accession. Et puis que vous l'avez dit, hein, ce garçon-là, Geoffrey Durban, est un buteur qui est à la fois efficace, mais qui met aussi des superbes buts. On l'a vu cette saison.
Oui. Il est impressionnant.
Dans le match hein, ce soir avec Fedel Koumissi pour le statut de meilleur buteur du national, je pense que pour le buteur concarnois c'est un petit challenge interne, c'est peut-être pas l'essentiel mais ça compte. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent porter les deux équipes et notamment ces deux attaquants là qui je crois se connaissent un petit peu en plus et qui sont vraiment d'excellents joueurs du national.
En tout cas, on espère une très grosse ambiance hein, ce soir à Guy Pirieu pour aider les Concarnois à rivaliser avec cette équipe de Laval. Concarneau-Laval, c'est à 20h45. Merci beaucoup Jérémy.
Merci Mélanie, à très bientôt.
À bientôt, bon match.
Merci d'avoir été avec nous, Jérémy Proulx. Mélanie, 100% Foot Braise revient demain. Demain, on sera mardi. On reviendra évidemment sur ce match de ce soir.
Oui, oui, avec bien sûr une victoire, on espère en tout cas, à débriefer demain. Puis on va évoquer aussi les autres rencontres du week-end. Hein, la défaite du Stade Rennais et les victoires pour nos clubs costa-armoricains, Guingamp et le Stade Briochin, ont tous les deux gagné à l'extérieur ce week-end.
Enfin des victoires dont on n'a pas parlé aujourd'hui. À demain, Mélanie.
À demain, bonne soirée, bon match ce soir. France Bleu.